qui développe la maladie 5 à 6 mois, et les jeunes adultes. Comme c'est une maladie auto-immune, on suppose que dans nos pays en voie de développement, vraiment beaucoup d'enfants, 80% d'enfants font la maladie. Il y a un autre groupe que je ne voulais pas beaucoup insister, je parlais peut-être de la complication, ce sont les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes aussi n'ont pas été vaccinées.
Donc les femmes enceintes sont-elles aussi des personnes à risque concernant la rougeole?
Si elle n'a jamais contracté la maladie pendant la grossesse, il y a des femmes enceintes qui peuvent développer aussi la rougeole. Voilà, ce sont des personnes exposées qui peuvent développer facilement la maladie. Et lorsque vous faites la maladie, c'est une maladie qui vous donne l'immunité toute la vie.
Cela signifie-t-il qu'on ne souffre de la rougeole qu'une seule fois dans la vie? Elle ne revient plus qu'une fois qu'on est guéri?
Oui, c'est ça que généralement en médecine, on dit que c'est une maladie auto-immune. Et lorsque vous développez cette maladie, je pense que vous êtes protégé toute la vie. Vous avez un anticorps suffisant qui vous protège toute la vie. C'est rare, très rare qu'on voit quelqu'un développer la rougeole pour la deuxième fois.
Comment se transmet la rougeole? Comment est-ce qu'on peut attraper la rougeole?
La rougeole se contamine par voie aérienne. Le virus de la rougeole se transmet directement par voie aérienne. Et les gouttelettes de salive en suspension dans l'air, il peut également se propager par contact direct avec des sécrétions de nez ou des sécrétions de gorge des personnes infectées. Donc le virus de la rougeole aussi, comme il est extrêmement dangereux, peut se propager lorsque le malade pousse un permis ou lorsque ces sécrétions restent quelque part et que vous touchez, vous entrez en contact avec ce virus. Parce que le virus peut persister des airs au niveau de l'air ou dans une chambre mal aérée et les risques peuvent être en suspension et qu'un enfant entre dans cette chambre et peut se contaminer facilement.
Merci docteur. Une rougeole négligée ou maltraitée, mal soignée, peut-elle entraîner à des complications?
Oui, effectivement, même s'il est bien traité, il y a des complications qui sont reconnues pour la rougeole. Les premières complications qu'on voit souvent, c'est que banal, c'est la diarrhée. Il y a déjà des enfants qui développent la forme de diarrhée persistante et ça peut être même le point de départ de la malnutrition aggravée. D'ailleurs, les gens disaient la rougeole, c'est le boulevard de la malnutrition.
Docteur Haruna, hormis la malnutrition, quel autre problème dû à la rougeole le malade peut-il connaître?
Il y a les problèmes et les complications de l'audition, ce qu'on appelle otite moyenne. Ça peut provoquer des problèmes de complications de l'audition. La rougeole peut compliquer la vision. Il y a une forme de cécité. Il y a des enfants qui développent la cécité après avoir développé la rougeole. Il y a les problèmes respiratoires aussi. Il y a des enfants qui présentent des problèmes graves respiratoires tels que la laryngo-tracheobronchite. Il peut présenter la pneumonie, il peut développer la bronchite. Il y a même les troubles neurologiques. Et la dernière complication, c'est la mort. Bon, vous savez, la rougeole, c'est parmi les maladies caractérisées par une forte mortalité. Ça, il faut le souligner parmi les complications.
Docteur, en dehors des difficultés que vous venez d'évoquer de façon générale, quelles sont les complications de façon spécifique que la rougeole peut entraîner chez la femme enceinte?
Chez les femmes enceintes, ça peut provoquer des complications graves qui peuvent entraîner vraiment l'avortement ou bien ça peut aussi donner des complications respiratoires chez la femme enceinte.
Quand un adulte attrape la rougeole, si elle est mal soignée, négligée ou maltraitée, est-ce qu'elle peut entraîner les mêmes complications que chez l'enfant?
L'adulte peut avoir les mêmes conséquences, surtout s'il a des problèmes immunitaires. Chez nous, en Afrique, on dit si la rougeole n'est pas encore passée dans votre famille, il ne faut pas compter les enfants. On compte les enfants à l'âge de 10 ans après le passage de rougeole. On suppose que 90% des enfants développent la rougeole. Et c'est ce qui fait que les adultes chez nous en Afrique aussi font rarement la maladie. Mais s'il n'a jamais développé la maladie, s'il n'a jamais été vacciné, à l'âge adulte, il peut présenter aussi des complications graves, comme l'enfant aussi peut présenter les mêmes complications que je viens de citer là-bas. Et c'est ce qui explique même les femmes enceintes, et peut présenter des complications graves, avortement et des troubles respiratoires graves.
Docteur, y a-t-il un traitement efficace contre la rougeole?
Le traitement en soi, les traitements curatifs, ça n'existe pas. Il n'existe pas un traitement antiviral spécifique contre la rougeole.
S'il n'y a pas un traitement comme tel contre la rougeole, comment les malades guérissent-ils alors?
On essaye de traiter les signes, de réanimer les malades. Par exemple, on va demander à ce que les malades soient nourris. On va demander à ce que les malades puissent prendre une quantité suffisante de l'eau pour se réhydrater. Et de temps à autre, on peut administrer des antibiotiques pour éviter la surinfection. On peut même traiter les infections auriculaires en utilisant les antibiotiques. On donne aussi la vitamine A. Et on demande à ce que les malades aussi puissent se reposer. Voilà, c'est sont les éléments qui visent à réanimer et à traiter les symptômes. Donc, c'est un traitement, comme on peut dire, le traitement symptomatique à ce qui concerne la rougeole.
Merci beaucoup. Un auditeur, Clément Kadiboué, veut savoir quelles sont les mesures préventives qu'on peut appliquer pour éradiquer cette maladie ou pour combattre la rougeole.
Il y a des axes de prévention. D'abord, il y a ce qu'on appelle la séroprévention par immunoglobuline humaine. Ça, c'est rare. Sinon, la prévention, c'est le vaccin contre la rougeole.
Combien de formes de vaccins contre la rougeole existent-ils, docteur?
Bon, il y a plusieurs formes de vaccins. Il y a d'autres pays qui administrent les vaccins aux enfants à l'âge de 6 mois, d'autres à 9 mois, d'autres à 12 mois. Dans d'autres pays, c'est une dose, dans d'autres pays, c'est deux doses. Dans d'autres pays, le vaccin contre la rougeole est combiné avec le vaccin contre la rubéole. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, le vaccin que nous utilisons, c'est le vaccin que nous administrons chez les enfants de l'âge de 9 mois. Mais à côté de cela, il y a les mesures hygiéniques qu'il faut sauvegarder.
Quelles sont ces mesures d'hygiène que les populations doivent observer pour prévenir la rougeole ou pour lutter contre cette maladie?
Donc, il faut observer les mesures hygiéniques, que c'est laver les mains régulièrement et apprendre aux enfants à les faire correctement. Laver les mains des enfants avec des sérums physiologiques, par exemple, couvrir la bouche des enfants quand ils toussent ou éternuent. Il faut utiliser les mouchoirs jetables. Il faut nettoyer les objets utilisés par la personne malade. Éviter d'embrasser la personne malade. Il faut ranger tout ce qui est brosse, tout ce que les malades utilisent. Il faut aussi aérer, comme je disais, l'intérieur de la chambre ou de la maison où se trouvent les malades. Voilà, c'est autant de mesures qu'il faut vraiment observer pour éviter la propagation ou de la contamination de cette maladie virale.
Alphonse Mbouaki s'inquiète, il dit si un enfant a la rougeole dans une famille et que cette famille a beaucoup d'enfants, quelles sont les précautions que la famille doit prendre pour protéger les enfants qui ne sont pas encore atteints de la rougeole?
Je pense que la première des choses, comme je vous dis, la contamination c'est par voie aérienne. Donc il faut, à mon avis, isoler l'enfant. Et les autres, parce que lorsqu'ils développent la maladie, ce que je vous disais, avant de développer les symptômes, 4 à 5 jours avant qu'ils puissent développer les symptômes, ils peuvent déjà contaminer les autres enfants. Donc il y a les mesures de l'hygiène que j'ai dit, et aussi il faut amener ces enfants pour qu'ils soient vaccinés. Si les enfants sont déjà vaccinés, je pense qu'il y a moins de risques qu'ils puissent développer la maladie. Même s'ils développent la maladie sera une maladie bénigne.
En un mot, c'est capital d'isoler un enfant qui fait de la rougeole.
Je me résume, lorsqu'il y a un enfant qui fait la maladie au niveau du foyer, il faut isoler cet enfant. Et les autres, il faut faire la promotion des mesures de l'hygiène. Et si possible aussi, si les enfants ne sont pas encore vaccinés, il faut les amener au service de santé pour que ces enfants soient vaccinés.
Docteur, nous avons un auditeur qui veut directement poser sa question. Le voici.
Je suis M. Alphonse Mbouaki, le Kinshasa, la capitale de R. Le Congo. J'ai participé à l'émission Notre Santé Votre Avenir et j'ai deux préoccupations par rapport au thème sur la rougeole. Alors, la première est celle de savoir si les adultes qui côtoient les enfants atteints de rougeole sont contaminables.
C'est la même chose, le virus, c'est le même virus, comme je disais. La contamination, c'est toujours par voie aérienne, par salive, des gouttelettes de saline. Et le virus peut être suspendu au niveau de l'air et quelqu'un peut se contaminer. Que ce soit l'enfant, l'adulte, les modes de contamination restent les mêmes. Mais chez nous, en Afrique, c'est rare à ce que les adultes développent la maladie. Mais il y a aussi des complications graves lorsqu'on développe la maladie, lorsqu'on devient adulte. On a signalé des cas de troubles respiratoires. On a signalé aussi des cas typiques des problèmes neurologiques chez les adultes qui développent tardivement la rougeole.
Concernant la femme enceinte, est-ce qu'elle peut transmettre la rougeole à son bébé, à l'enfant qui n'est pas encore né?
Le virus, lorsqu'il entre dans le corps, il peut perturber l'immunité. Et souvent, lorsqu'il y a ce conflit d'immunité, comme on l'a dit, il ne contamine pas l'enfant, mais c'est là la perturbation immunologique qui peut provoquer les décès de l'enfant. Et ça peut provoquer même l'arrêt des grossesses. Ce n'est pas vraiment une contamination comme telle, c'est les troubles immunologiques qui vont aboutir à l'arrêt des grossesses.
Comment le virus de la rougeole contamine-t-il le fœtus ou le bébé qui est encore dans le ventre de la mère?
Pour que le virus puisse contaminer l'enfant, donc il doit passer par ce qu'on appelle la barrière placentaire. Comme l'exemple des VIH/SIDA, la plupart des enfants qui sont contaminés à VIH pendant l'accouchement. C'est rare pendant la grossesse que l'enfant développe la maladie au niveau de l'utérus. Il y a les mécanismes de protection de l'enfant.
Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de contamination à la rougeole de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou avant l'accouchement?
Il peut arriver que l'enfant soit contaminé, mais ce sont des cas rares lorsqu'il y a une lésion au niveau des placentaires. Mais dans des conditions un peu particulières, c'est les troubles immunologiques qui provoquent l'avortement, c'est les troubles neurologiques qui provoquent l'arrêt de la grossesse.
On a un auditeur, Archiduc Théodore de Pinjamina Tchad, veut se rassurer si la rougeole c'est une maladie qui peut tuer.
La rougeole, je pense, chez nous en Afrique, après les paludines, c'est la rougeole qui tue. La rougeole, c'est la deuxième cause qu'on peut dire dans mes pays ici, la deuxième cause après les paludines, c'est la rougeole qui tue beaucoup les enfants.
Pourquoi la rougeole est-elle si répandue, si fréquente dans beaucoup de pays en développement, notamment dans certaines régions d'Afrique et même d'Asie?
C'est ce que je veux dire. Il y a d'abord les problèmes écologiques, c'est-à-dire l'environnement dans lequel le virus évolue, les conditions climatiques, la température, tout cela, ça favorise par rapport à d'autres zones où il fait telle fois. Deuxième chose, c'est la promiscuité. Les gens, comme vous venez de l'évoquer, la famille nombreuse, les gens se contaminent facilement. Et cela augmente la vitesse de contamination. Le troisième point que je peux dire aussi, c'est les mesures de l'hygiène qui ne sont pas vraiment observées, comme je le dis, qui se lavent les mains à chaque moment et qui utilisent des mouchoirs.
Il faut donc observer les règles d'hygiène pour éviter la propagation de la rougeole.
Le manque de mesures d'hygiène aussi contribue à cela. Et les quatrième facteur, je peux dire, c'est du fait que la couverture vaccinale est très basse dans la plupart des pays d'Asie comme d'Afrique. Voilà, je pense à mon avis, ce sont ces quatre facteurs-là qui font qu'il y a des épidémies de rougeole en Afrique et dans d'autres pays d'Asie.
Vous avez déjà abordé un peu la question de la vaccination. Je veux savoir à quel moment la vaccination contre la rougeole devient importante ou devient obligatoire.
La rougeole, l'administration de la rougeole, je pense, elle est obligatoire. Dans la plupart des pays, même en Europe, certains pays d'ailleurs ont dit que la rougeole constitue une maladie à déclaration obligatoire. Et lorsqu'il y a un cas, il faut le notifier. Il faut que ce cas soit pris en charge pour éviter à ce qu'il puisse se contaminer. C'est parmi les maladies hautement contagieuses qui peuvent contaminer d'autres personnes.
Si la famille constate qu'un enfant est en train de faire la rougeole ou de développer la rougeole, qu'est-ce que les membres de cette famille sont appelés à faire?
Lorsqu'il y a un cas, je pense à mon niveau, donc même ici en République démocratique du Congo, il faut notifier ce cas qu'on puisse faire l'investigation. Et s'il s'agit d'un cas de rougeole, donc il faut prendre des précautions, organiser la riposte tout autour des cas, comme on dit, isoler les cas, et si possible, les enfants qui sont tout autour, il faut les vacciner pour les protéger.
Merci, docteur Haruna. Nous allons terminer notre interview avec une question de Clément Kadjeboué. Il veut savoir quelle est l'éducation sanitaire qu'il faut donner à la communauté pour lutter contre la rougeole.
Première information, l'éducation qu'il faut donner lorsque l'enfant atteint l'âge, comme chez nous, si l'enfant atteint l'âge de 9 mois, il faut l'amener au service de santé pour que cet enfant soit vacciné. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Deuxième élément, c'est il faut promouvoir les notions de l'hygiène. Comme on dit, c'est laver les mains de l'enfant, couvrir la bouche à chaque fois qu'il y a un intervenant. Donc, toutes ces mesures de prévention qui évitent de contaminer d'autres personnes et d'être contaminées. Je pense que ce sont les deux éléments capitaux, deux éléments qu'on peut dire essentiels qui permettent de prévenir la rougeole.
Merci beaucoup, docteur Haruna, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez d'écouter notre entrevue avec le docteur Aaron Haruna. Il est le directeur général de la surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo. Place à carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans carnet de santé, les conseils d'un expert afin de prévenir les problèmes de prostate et rester en bonne santé. Dans conseils et astuces, nous verrons comment éviter l'apparition de boutons après le rasage. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour, merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. La prostate est une glande qui fait partie des appareils reproducteurs et urinaires chez l'homme. Chez les hommes jeunes, elle est environ de la taille d'une noix, mais selon les experts, elle se met à augmenter de volume à la fin de la quarantaine. La prostate peut grossir et se déformer, soit par développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate, soit à cause de l'apparition d'un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate reste le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes dans le monde. Selon des scientifiques britanniques, les hommes d'origine africaine vivant en Angleterre ont deux fois plus de risques d'être diagnostiqués d'un cancer de la prostate et d'en mourir que les hommes d'origine caucasienne. Rendons-nous à présent au Bénin afin de découvrir comment est traité ce cancer dans cet élément de Xavier Fabouhoun.
Une difficulté à uriner et un besoin nocturne d'évacuer l'urine, c'est généralement les motifs contraignant certaines personnes à se faire diagnostiquer du cancer de la prostate. Au service d'urologie andrologie du centre hospitalier universitaire de Cotonou au Bénin, ce temps se prépare à une intervention pour déterminer la présence de la pathologie.
Quand j'avais l'âge de 62 ans, j'avais des difficultés à éviter. J'ai commencé par prendre des petits actifs préventifs pour la prostate, mais j'ai vu que le mal persistait. Quand je vais à la fête, je vis normalement. C'est ça qui m'a amené maintenant à faire la biopsie.
Le cancer de la prostate est une pathologie d'un sujet masculin âgé de plus de 50 ans. En 2012, une étude indique l'incidence de la pathologie à un taux de 24% et sa mortalité à 21% en Afrique francophone.
Il y a plusieurs modalités de traitement de ce cancer-là. Au Bénin actuellement, ce qui est disponible, c'est la chirurgie. Sur le plan de la radiothérapie, cet équipement n'est pas disponible sur le territoire béninois. Et donc les patients doivent se rendre dans la sous-région, les pays voisins, ou bien aller en Europe pour en bénéficier.
Le coût total d'une intervention de suivi à la chirurgie est selon les médecins estimé à plus de 1 000 euros, soit plus de 600 000 francs CFA au Bénin et dans la sous-région. Une situation qui pousse certains malades à se tourner vers un traitement traditionnel.
Pour en savoir davantage, nous joignons par Skype à Johannesburg le professeur Michael Herbst, directeur santé de l'Association sud-africaine du cancer CANSA. Professor Herbst, thank you so much for joining us. One of the challenges that we hear a lot.
L'un des défis dans la lutte contre le cancer de la prostate en Afrique a trait à certaines idées fausses sur la maladie et au fait que certaines personnes vont voir des guérisseurs traditionnels. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Oui, nous avons beaucoup de gens qui croient en pas mal de mythes autour du cancer lui-même, pas seulement le cancer de la prostate. Les gens disent vous allez peut-être être ensorcelé et que cela cause la maladie. Et les gens particuliers, les hommes traditionnels, ne viennent pas aller chez les médecins. C'est une affaire très personnelle et très privée. Ils ne veulent donc pas s'exposer et demander conseil.
Nous avons maintenant des questions posées sur Facebook. L'une d'elles vient d'Alphonse Mbwaki, en République démocratique du Congo. Il dit qu'il existe une croyance selon laquelle le cancer de la prostate est le résultat de relations sexuelles excessives. Est-ce vrai?
Non, vous savez, d'ailleurs, il y a une étude en cours pour montrer que l'incidence du cancer de la prostate est plus faible chez les personnes qui éjaculent fréquemment.
Enfin, que peuvent faire les hommes pour prévenir le cancer de la prostate?
Eh bien, vous savez qu'il est très difficile de prévenir le cancer, mais on peut faire beaucoup de choses pour diminuer ces risques. C'est vivre une vie saine et équilibrée, manger sainement, ne pas fumer, ne pas abuser de l'alcool et vraiment prendre soin de sa santé et se faire consulter au plus tôt quand il y a un problème. Et si possible, opter pour le test PSA annuel.
Professeur Michael Herbst, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Professeur Michael Herbst est directeur santé de l'Association sud-africaine du cancer, CANSA. Le professeur Peter Anyang Nyong'o est gouverneur de Kisumu au Kenya et survivant du cancer de la prostate. Selon lui, son diagnostic, lorsqu'il était ministre de la Santé, a contribué à une prise de conscience du besoin d'améliorer les soins du cancer dans son pays.
Je pense que cela m'a rappelé la nécessité pour les gens d'être informés sur le cancer et se rendre compte que c'est un problème qui concerne tout le monde. Au départ même, les membres du gouvernement étaient extrêmement ignorants au sujet du cancer. Je pense que c'était un déni de leur part. J'en ai parlé très ouvertement à un autre de mes collègues. C'est à la suite que le gouvernement a commencé à prendre la question du cancer beaucoup plus au sérieux. Je veux dire, j'ai été diagnostiqué du cancer. Je peux aller me faire soigner en Californie. Et le Kenyan lambda qui ne peut pas se le permettre. C'est pour cela que nous avons créé la Fondation africaine contre le cancer afin de s'atteler à renforcer la capacité et l'aptitude de faire face au cancer au Kenya. Ce n'est pas un parcours facile car en cours de route, nous avons des problèmes de ressources, des problèmes de volonté politique comme vous l'avez mentionné. Mais heureusement, la volonté politique est maintenant là. Tant ce sont les ressources.
Après son expérience avec la maladie, le gouverneur Peter Nyong'o et son épouse Dorothy Nyong'o ont créé l'organisation African Cancer Foundation afin de sensibiliser les populations sur le cancer, entre autres. Selon certaines statistiques, 65% des hommes se rasent tous les jours. Mais ce geste quotidien agresse la peau. L'une des conséquences les plus indésirables, c'est l'apparition de boutons après le rasage de la barbe, phénomène plutôt courant chez beaucoup d'hommes. Comment faire pour éviter l'apparition de boutons? Nous avons posé la question à Oscar Masuku, qui est coiffeur chez Africots à Silver Spring dans le Maryland.
Concernant la peau des hommes, à un certain âge, après 20 ans, on développe des glands. Lorsqu'on prend du poids, cela arrive avec l'âge et aussi parce qu'on mange du sucre ou de la nourriture grasse. Alors quand on commence à pousser des poils sur le visage, certains poils deviennent plus larges et plus vous vous rasez, cette glande aide vos poils à pousser. Ce sont les follicules.
That glands help your hair to grow. That's the papilla, your follicles, and those follicles is what makes your hair.
Ces follicules font pousser vos poils. Donc après un moment, les tissus gras deviennent plus épais. Cela crée un bouton parce qu'il ferme le trou et empêche le poil de sortir.
As we professionals, look into your skin and we can tell.
Nous les professionnels, le savons, et la seule façon de le savoir est que je dois te raser et voir.
Then I can tell exactly how your skin is reacting.
Il y a différentes façons de traiter les boutons. Si vous vous rasez tous les jours et que vous avez des boutons, vous pouvez changer de rythme et vous raser une fois par semaine. Il y a des gens qui doivent se raser une fois par semaine pour éviter les boutons. D'autres doivent se raser une fois par jour pour éviter les boutons. Quand vous vous rasez, nous conseillons d'utiliser de l'eau chaude sur votre visage car l'air qui frappe votre visage est sale. Donc, quand vous vous lavez le visage, cela ouvre vos pores et l'eau chaude peut diluer l'huile sur votre visage. La crème après rasage marche pour certaines personnes, mais cela dépend de la texture de votre peau.
Des conseils que nous espérons pourront aider à dire adieu à ces boutons indésirables. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de Santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Nous étions en compagnie du Dr Aaron Aruna. Il est le directeur général de la Direction de surveillance épidémiologique en RDC. Dans la seconde partie, vous avez écouté Linor Moudou dans son carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiérot et de Kelvin Follower, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.